Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à l'émission Direct Jazz, émission de la radio libre albanacienne, fréquence 7. Salut Sylvain.
Salut Pierre.
T'as passé des belles vacances en Grèce?
Oui, nickel.
C'était super,
ah,
hein?
Ouais, magnifique.
2 mois de vacances.
Ah, rien que ça, ouais.
Yeah, yeah. T'es allé à la pêche au requin, je pense, hein?
C'est ça.
C'est bon. T'as marché?
Non.
Pas du tout? Bon, ben, c'est pas grave. Merci pour les requins. Puis aujourd'hui, on a un invité qui s'appelle Martin Fournier, qui c'est mon vieil ami Martin depuis... Ça fait combien de temps qu'on se connaît, Martin? Bonjour, Martin.
Bonjour, Pierre. Écoute, c'est un retour de plaisir.
Ouais, ça fait longtemps qu'on se connaît. Dis-le pour voir.
On s'est connus au milieu des années 70.
Ouh là là, ça fait longtemps, hein? 50 ans. 50 ans qu'on se connaît.
Une amitié de courte figue ou de longue date.
Ouais, oh, c'est pas mal, ça. Ouais, OK. Puis, ben, welcome back to Ardèche.
Merci, ce n'est pas ma première présence à l'émission, mais c'est un plaisir d'être de retour.
Oui, hein? Tu viens de Paris, tu habites Paris maintenant?
Pour l'instant.
Ouais, mais tu as habité un petit peu au Bénin pendant quelques années.
Voilà, toi. Je suis albanacien en partie et je le redeviendrai peut-être.
Parce que ça te tente, hein?
J'adore ce pays, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Ah. J'y suis venu à quelques reprises alors que j'habitais au Canada ou à Paris et puis... J'y suis venu en 2020, juste avant la pandémie, et tu m'avais fait découvrir au Bénin. Puis je me suis dit, tiens, voilà bien un endroit où je m'installerais un jour. Et puis ce jour-là est venu pendant la pandémie. Et donc j'ai habité un an et demi, assez pour connaître la ville et pour avoir envie d'y
revenir. Certains, plusieurs habitants, bien sûr. Hein?
J'aime beaucoup les gens, les gens de Bénin. Ouais. Oui. Ouais.
Cool. Ben, tu sais, moi, c'est pareil, hein, ça fait 25 ans, moi. Donc, la piqûre, je l'ai, je la connais. Bon, ben, écoute, c'est parfait. Puis là, ben, Martin, mon ami Martin, avec mon ami Martin, on jouait dans un groupe qui s'appelait Quintonal Jazz, un quintet, dont on a parlé ici une fois. Puis même, il y a un des membres, Pierre Pilon, qui est venu avec sa batterie. Ben, pas avec sa batterie, on a emprunté la batterie d'Anne-Laure à l'époque. Puis, il est venu jouer, il est venu faire une émission. On a tchatché un peu sur ce groupe. Qui date des années 70, n'est-ce pas? 76, 77?
Alors, les origines de Quintonal remontent à nos années de conservatoire.
Oui.
Où Pierre et moi étudions avec le pianiste Daniel Mercure et le professeur de jazz de l'époque, Nick Ayoub, avait créé un petit ensemble de jazz qui était un cours de combo de jazz.
C'est ça.
Et donc, il nous a fait jouer, Pierre et moi, Daniel et... deux musiciens qui étaient au conservatoire à l'époque. Et on s'est pris d'affection musicale les uns pour les autres. Et puis Pierre a décidé, quand on ferait un groupe, et il a décidé dès le départ, d'emblée, de changer le personnel qui...
J'ai déjà commencé à me faire des ennemis.
Toi, dehors. Qui ne convenait pas à l'image qu'il se faisait, à l'idée qu'il se faisait du groupe à venir. Et donc, il a retenu les services de Pierre Pilon, le batteur, qui est venu dans l'émission, et du bassiste Jean Pellerin. Et donc, c'est Pierre Lafrenais, fondateur du groupe. Pierre Pilon à la batterie, Jean Pellerin à la basse et moi au saxophone. Et voilà, on a fait notre petit bonhomme de chemin, on a fait des tournées, on s'est connus dans des contrées éloignées, puisqu'on faisait des tournées pour les jeunesses musicales. Donc, on fait une centaine de concerts de par le Canada, dans le Grand Nord, dans des endroits où ils n'avaient jamais entendu de jazz et où ils en ont peut-être jamais entendu depuis. Et pour économiser les sous, pour la petite anecdote, nous logions, pour économiser le per diem, nous logions les 5 dans la même chambre de motel.
Avec une poêle, on avait acheté une poêle électrique, on se faisait manger dans la chambre d'hôtel.
Et ce qui n'a pas manqué de provoquer plusieurs anecdotes, nous étions tous dans la vingtaine. Alors,
mon Dieu, de 16 à 22 ans. Le bassiste, Jean Pellerin, il avait... Ça va te parler, ça, Sylvain, parce que c'est un bassiste électrique. Ben, Sylvain, notoire bassiste électrique. Mais il jouait pas de basse quand on l'a connu. Il jouait de la guitare. On dit, on cherche un bassiste. Ben, il dit, moi, j'ai une basse chez moi. Une basse à 30 euros, tu sais. Puis tu vas l'entendre comment il joue. Puis voilà, puis c'est ça, comme tu dis, on s'est promené, on imagine, on était le roi du monde, on a 16 à, de 16 à 22 ans, on a un petit utilitaire fourni par les jeunesses musicales avec une paye et un perdième, t'imagines?
Oui, et l'énergie du groupe, la propulsion a été assurée justement par cette rythmique d'enfer, là, de Pierre Pilon à la batterie et Jean Pellerin à la basse, ça chauffait, quoi. Ils avaient une... Ils avaient une compréhension, une complicité rythmique, à quoi s'ajoutait le grand talent mélodique de notre pianiste Daniel Mercure. Et ce sont toutes ces influences-là conjuguées à cet âge-là aussi, hein, quand tu as 20 ans. C'est l'époque de Headhunters, c'est l'époque de Herbie Hancock, début des Brecker Brothers, et donc on baignait un peu dans cet univers-là. Notre musique en était un petit peu empreinte, mais on tenait beaucoup à faire nos compositions.
On faisait que des compos, voilà. que des compos. Donc on peut écouter une chanson, Martin, qu'est-ce que tu en penses? Alors, une chanson qui s'appelle Antoine, en hommage à notre ami Antoine Curie, n'est-ce pas? Il était à la retraite, il était professeur de trompette au Conservatoire supérieur à Paris, professeur de trompette classique, n'est-ce pas? D'ailleurs, il vient de temps en temps faire son petit tour à Aubenas parce que sa belle-sœur habite Aubenas. Et puis, c'est une chanson en 3-4, un funk en 3-4, écrit par le groupe qui s'appelle Antoine. Merci Sylvain, c'est parti. Thank you. Yes, sir, madame. Ça nous rappelle des souvenirs, hein, Martin?
Oui.
Grosse tournée Québec-Canada, des concerts partout. Bon, on jouait, hein, on faisait, tu t'en souviens, on faisait la première partie, on faisait l'histoire du jazz. Ben, l'histoire, des petits morceaux de vie de l'histoire du jazz. Tu avais écrit des textes, parce que toi, t'es bon là-dedans.
La mission que les jeunesses musicales nous avaient confiée, c'était de porter la bonne parole, pour ainsi dire, du jazz. Donc, on faisait une première partie historique et pédagogique en faisant les grandes époques du jazz, du Dixieland, en passant par le blues, le bebop, le swing, et terminé par Coltrane. Donc, en terminant la première partie, les jeunes, puisque c'était surtout des jeunes, avaient déjà une idée de l'histoire du jazz, puisqu'on avait en plus, on était très avancé techniquement. Puisqu'il y avait des diapositives qui étaient manipulées par le pianiste sur un diaporama carousel, et on voyait des images de Mars, on voyait des images de Louis Armstrong. Donc, c'était vraiment encapsulé en une heure et quelques, un joli petit spectacle initiatique au jazz.
C'était bon, puis Martin disait dans 1920, Louis Armstrong, tout ça. Puis là, on jouait une chanson qu'on avait appris par cœur, évidemment. On jouait tout par cœur. Qu'on avait appris par cœur, mais avec les solos et tout. Tout comme, tu sais, le vrai truc. Puis on jouait une chanson de l'époque. Ensuite, on passait à l'époque du swing, pareil. Martin faisait ça, son petit texte.
Mais on avait ce souci de reproduire à l'identique, c'est-à-dire qu'on avait appris, on pouvait jouer avec le disque.
Ben ouais, on jouait la même chose. Ouais. Chacun de notre côté, on avait appris nos solos, puis on copiait, collait. Bon, c'était pas pareil, bien sûr.
Non, mais c'était une bonne école.
Mais c'est une bonne école pour nous, puis les gens entendaient les solos des gars, les vrais solos. Puis en deuxième partie, là, on avait une pause. En deuxième partie, on jouait notre stock, notre musique qu'on va écouter un petit peu aujourd'hui. Là. On jouait nos compos. Alors voilà, c'était merveilleux.
Ce qui est intéressant de noter, c'est que la formation de quintonale, c'est-à-dire deux cuivres et une section rythmique, c'est un ensemble classique dans l'histoire du jazz, surtout à partir du bebop. Cette paire de cuivres, généralement ténor, trompette, a été une des grandes formations. C'est un peu l'équivalent du trio violoncelle, piano, violon classique ou un quatuor à cordes. Mais ça, c'est une formation vraiment classique. Il y a eu des grands quintettes, toujours dirigés par des compositeurs et des musiciens. Qui avait soit le pupitre de piano, comme c'est le cas de Horace Silver, le pupitre de batterie, comme Hart Blakey. Parfois, c'était un des deux cuivres qui était chef d'orchestre, mais il y avait tout. Voilà. Et c'était une formation où la créativité pouvait être échangée, contenue, et il y avait une intimité dans ce format-là, je trouve.
D'ailleurs, tu as apporté de la musique, Martin, pour nous faire écouter de Horace Silver.
Ben justement,
parce que nous, on tripait sur on appelle ça en québécois les front, les cuivres, les gens qui sont devant, hein, on vient de là. C'est comme Martin vient de dire, en général, c'est sax trompette, mais souvent, c'est un trio, trombone, sax trompette. Puis là, tu as apporté de la musique pour nous de Horace Silver.
Oui, Horace Silver, qui est un des grands compositeurs assez méconnus, mais très bien connu des jazzmen, mais méconnu du grand public, et qui a la particularité d'écrire des mélodies qui se retiennent éminemment bien. Donc, ce musicien de jazz est presque le plus populaire d'entre tous parce qu'il avait cette particularité qu'il écrivait des paroles pour tous ses morceaux, même si c'était des morceaux instrumentaux. Il y avait toujours des paroles, ce qui fait que ces mélodies, quelque part, on les retient. Et on va écouter la première plage d'un de ses disques phares et qui est en fin de carrière, parce qu'il était déjà grand-papa d'un âge grand-paternel. Ça s'appelle The Hard Bop Grandpop. Et sa formation est composée de Ron Carter à la basse, qui, de son propre aveu, c'est un des meilleurs disques sur lesquels Ron Carter a travaillé et en a fait des milliers. Leslie Nash à la batterie, Horace Silver au piano, Ronnie Cuber au saxophone ténor et Michael Brecker. Steve Turry au trombone et Michael Brecker au saxophone ténor. Ça s'appelle I Want You.
Yes, sir, Sylvain.
Thank you.
Aura Silver, la chanson qui s'appelle I Want You. Yeah, man. Hein? C'est le fun, hein? C'est beau.
Oui, c'est beau. C'est emblématique de la musique d'Aura Silver, parce que Ron Carter le mettait dans les disques sur lesquels il a travaillé, préféré, surtout à cause de la préparation de Aura Silver, qui répétait avant d'aller en studio. Et c'est pour ça que ses arrangements sont coupés au cordeau et il n'y a rien qui dépasse. Et Ron Carter faisait référence au tout autre modus operandi. Par exemple, sur Kind of Blue, Ron Carter a joué sur Kind of Blue, mais alors c'était totalement improvisé. Ils sont rentrés en studio, ils ne savaient pas du tout ce qui allait en sortir et il en est sorti un chef-d'œuvre. Mais voilà, c'est deux façons de travailler qui étaient complètement opposées.
Yes, sir, madame. Bon, c'était notre époque, hein, dans ce temps-là. Mais ça, c'est pas si vieux, ça, celui-là, oui?
Non, ça date de début des années 2000. C'est la fin du règne d'Harris qui est décédé en 2014, okay. Après une longue carrière. C'est lui, notamment, qui a été fondateur avec Art Blakey des Jazz Messengers. On parle toujours des Art Blakey Jazz Messengers, mais au départ, c'est Aura Silver et Art qui ont fondé ce quintet de mythique.
Magnifique, Martin. C'est, toi, tu connais bien ça parce que tu as fait un petit documentaire sur Aura Silver au Cap-Vert. Tu t'es déplacé au Cap-Vert pour aller voir un petit peu les racines de M. Silver.
Quand j'ai appris qu'il avait des racines capverdiennes, il a d'ailleurs fait un album qui s'appelle Cape Verdean Blues, je me suis un peu intéressé à ses origines. Et son papa est né sur une île du Cap-Vert qui s'appelle Mayo, M-A-I-O, comme le mois de mai. Et j'ai fait une recherche et on a décidé, contre toute attente, de proposer un documentaire sur les origines de la musique d'Aura Silver. Et on a donc pu aller 10 jours tourner, faire des images, interviewer des gens et voir d'où venait cette musique. Et on n'a jamais vendu ce documentaire sur Aura Silver. C'était un long shot, comme on dit. Il n'y a pas beaucoup de diffuseurs qui étaient prêts à diffuser un film sur Aura Silver. Dommage, mais on en a tiré un joli petit film de 10 minutes qui nous a amené au Cap-Vert.
Qu'on peut peut-être voir sur YouTube, non? Tu ne l'as pas mis?
Oui, ça s'appelle... on avait intitulé ça... Le titre provisoire, c'était Silver and Soul. Donc,
Silver and Soul, YouTube, vous pouvez le voir.
Je pense. Non, s'il n'est pas, puis je pense que j'ai le droit de le mettre. Alors, si c'est pas encore fait, je vais... je vous redirigerai vers Silver and Soul. Mais ça explique le côté latin, mais pas que latin, africain. Le Cap-Vert, c'est un... c'est une plateforme sur la route de la traite négrière entre le Brésil et l'Afrique. Il y a 6 millions d'esclaves qui ont fait escale au Cap-Vert avant d'être embarqués pour le Brésil. Donc, il y a un métissage humain qui remonte à cette époque de l'esclavage, qui fait que musicalement, c'est un peuple très, très intéressant. Il y a une culture mélangée. Il y a des Brésiliens, il y a des Portugais, il y a des Juifs séfarades émigrés, il y a des... voilà, c'est un joli endroit pour la musique. La musique est très, très importante au Cap-Vert.
Puis toi, Martin, en tant que compositeur, tu as composé des chansons, des morceaux, toi aussi, un peu?
Oui, ben à l'époque, on participait tous à notre répertoire. Et puis, on avait 20 ans, donc on était souvent portés à dédier une de nos chansons à une jeune fille pour qui notre cœur battait. Et puis dans l'histoire du jazz, il y a Laura, enfin il y a beaucoup de standards de jazz qui portent le nom de... Tu peux vraiment citer un autre, Pierre? Un standard de jazz qui porte le nom d'une...
Émilie,
voilà.
Par exemple.
Ah, c'était sûrement qu'un compositeur qui
Joanne.
Était... Joanne?
Oui, oui.
Jean-Guy?
Jocelyne? Non, mais Émilie, ça existe. Poppy.
Voilà, et donc Pierre, à l'époque, sortait avec une amoureuse qui s'appelait Laurie.
Qui est venue ici, d'ailleurs c'est Laurie. Bonjour Laurie, elle ne doit pas nous écouter souvent. Mais c'est elle qui a fait la première émission que j'anime depuis, ça fait déjà 15 ans, je pense, ça fait longtemps. Ouh, mon Dieu, au secours. Puis c'est elle qui a fait la première, avec Louis Lorrain. Louis Lorrain, trompettiste, un ancien élève à moi du conservatoire à Lyon, qui va très, très bien. Louis, il fait sa musique. Il fait de la musique, ce qu'on appelle vulgairement de la musique improvisée. Mais il marche partout, il est bon, puis il est bon, puis il est merveilleux. Mais on a fait la première émission. Donc, Laurie, puis moi, j'ai écrit une chanson qui s'appelait Laurie's Tune. Mais c'est pas celle-là qu'on va écouter maintenant.
Non, parce que moi, j'étais amoureux d'une fille qui s'appelait Liane.
Oui, elle me rappelle.
Voilà. Et donc, j'ai composé ce morceau dans un grand élan amoureux qui s'appelle Balade pour Liane.
On y va, Sylvain, merci. Thank you. Rebonsoir, vous êtes à l'émission Direct Jazz, émission de la radio libérale benassienne, fréquence 7. On vient d'entendre une chanson composée par M. Martin Fournier qui est avec nous aujourd'hui, qui s'appelle « Ballade pour Liane », extrait d'un disque, d'un remake de Quintanal Jazz des années 70, refait par une compagnie qui s'appelle, comment ça s'appelle les gars qui l'ont fait, de Finlande. Oh mon Dieu, je ne me rappelle plus. Mais ils nous ont trouvé sur le net, puis ils ont décidé qu'ils aimaient ça, puis ils nous ont reproduit, ils nous ont fait un beau disque remasterisé en Allemagne. Progression, je ne me rappelle plus. Puis voilà, c'est ce que c'est. Ballade pour Liane.
Il est à souligner que c'est un enregistrement maison, mais plus précisément un enregistrement banque.
Ah oui, on a fait ça dans le sous-sol de la caisse populaire de mon quartier, parce que mon père connaissait tout le monde connaissait le banquier, mais on lui avait demandé si c'était possible d'utiliser le sous-sol. On avait la clé de la caisse populaire, mais avec des moyens du bord, mais vraiment. Hein.
C'est parce qu'on n'avait pas accès au coffre-fort, malheureusement.
Oui, c'est ça. Mais c'est pour dire que, voilà, avec des micros pas chers, avec une console pas chère, t'arrives à faire de quoi?
Enregistré sur un ruban quart de pouce.
Ouais, mais toi, on n'est pas comme là, tu tournes, il faudrait que tu sois comme ça.
Mais ils ne voient pas les gens.
On ne voit pas les gens radio. Quart de pouce, un reel-to-reel, comme on dit. C'est un Sony 366 que mon père avait. On avait donc fait un mix avant. On allait sur deux pistes, puis notre console, c'était une. T'en souviens-tu? C'était ma console que j'avais comme ampli, là. C'était une console Shure Vocal Master, 6 entrées. C'était comme une console de Sono. C'était pas une vraie console comme Sylvain a aujourd'hui. Mais on avait mis la basse là-dedans, on avait mis le piano électrique là-dedans. On avait mis deux micros sur le drum probablement, puis un micro chacun.
Et ce disque-là est en fait un testament, puisque après une centaine de concerts, de tournées, pour les jeunesses musicales, mais aussi...
On jouait dans les bars, on jouait partout.
Jeunesse
musicale, c'est juste un petit côté de notre truc.
Et avant que le groupe ne se sépare, Pierre avait eu cette intuition. On devrait enregistrer tout notre répertoire, comme ça restera pour la postérité. Et c'est ce qu'on est en train d'écouter. C'est cette dernière rencontre entre nos musiciens. Chacun est allé... a suivi ses... il y a eu des chemins. On s'est séparés, un peu comme les Beatles. On en a moins parlé de la séparation de Quintanal, mais ça a été notre enregistrement testament.
Puis la compagnie qui nous a produit ce disque, ils ont produit 17 chansons, donc deux vinyles puis un CD sur lequel il y a 17 chansons, avec des photos et tout, des photos d'époque. Et puis la compagnie, je viens de mentionner, c'est Jazz Aggression. Vous allez sur eBay, Jazz Aggression, vous pouvez acheter le disque. Puis ces gars-là, qu'ils nous ont...
Comment ils ont trouvé la trace de notre musique?
Ils nous ont entendus sur un site qui s'appelle Psychébélic. C'est un gars qui fait des compiles de tous les groupes, plusieurs groupes des années 70, rock, pop, funk et jazz, dont on faisait partie. Ils nous ont trouvés, ils nous ont aimés. Puis ils ont contacté Jean Pellerin, le bassiste. Puis Jean, c'est Jean qui avait les bandes. Puis les bandes étaient collées. Le tape était collé, marchait pas. Il l'a fait sécher au four, puis la bande s'est décollée. Puis voilà le résultat.
Ouais, c'est un support.
Ça sonne bien, vous allez l'entendre sur la radio, ça sonne bien.
C'est un support qui n'existe plus, mais les bandes magnétiques, ça s'oxydait et ça restait trop longtemps, effectivement. Ça adhérait les unes aux autres. Mais Jean a sauvé la mise, on peut
c'est
dire.
Ça. Donc voilà l'histoire de Quintanal Jazz. Martin, parle-nous un peu de Horace Silver.
Alors, Horace a écrit plus de 1000 standards. Ils ne sont pas tous devenus des standards, mais c'était un des compositeurs les plus prolifiques de l'histoire du jazz. Il faut savoir qu'en jazz, il n'y a pas de tant de compositeurs que ça. Le jazz est une musique improvisée et le jazz s'est fait connaître par la réinterprétation de musique populaire de l'époque, extraite de comédies musicales, tombée dans l'oubli depuis, mais un standard est resté. Et donc, c'est une musique qui était foncièrement improvisée et non pas composée. Il y a très peu de compositeurs de musique de jazz, le plus grand d'entre eux étant Duke Ellington. Benny Golson en est un autre. Tad Dameron, enfin, il y a des compositeurs de musique de jazz, mais pas tant que ça. Et Horace Silver en est un. Et il a eu une immense production musicale, toujours des thèmes originaux, mais souvent il s'inspirait de grilles, de standards connus. Et c'est ce qu'on va entendre, en fait, le standard Donnelly, qui est un thème qui avait été composé par Miles Davis. Et
qui a été pris sur une autre grille qui s'appelle
Indiana. Voilà, qui est une chanson des années 30 et que les Beboppers avaient réarrangé de façon plus complexe mélodiquement. Et Harris a fait une troisième prise, si vous voulez. Il a repris les accords d'origine d'Indiana et de Donnelly. Et il en a fait le titre de cet album qui s'appelle The Hard Bop Grand Pop. Et on va entendre à la trompette Claudio Roditi.
Voilà, qui joue une trompette à palette. Pour les connaisseurs, une trompette à palette, c'est une trompette à piston rotatif.
Oui, et en fait, je ne sais pas pourquoi on parle de lui, parce qu'il ne jouera pas du tout là-dessus.
Mais quand même, Claudio Roditi joue quand même une trompette à palette à piston rotatif.
Il joue sur ce disque-là, mais là, on va entendre Ronnie Cuber au saxophone baryton, Steve Turry au trombone et Horace Silver au piano, toujours avec Ron Carter à la basse et Lois Nash à la batterie, The Hard Bop Grand Pop, dont la grille est inspirée de Donnelly.
Yes, sir, madame Sylvain, on y va, c'est parti. Thank you. Aura Silver. Yeah, Martin, ben merci d'avoir apporté ces superbes chansons.
Oui, ben ça donne une petite envie qui deviendra grande, j'espère, de découvrir la musique de Horace Silver, qui ne dément jamais. C'est un compositeur très agréable à entendre parce que ses mélodies toujours facilement reconnaissables puisque sont presque toutes des chansons dont il a écrit les paroles.
Ah, ben oui, j'ai vu ça sur la pochette de ce disque. Il y a les paroles des chansons qui sont jamais chantées, en fait.
En fait, celle qu'on vient d'entendre de Hard Bop Grand Pop, c'est la seule chanson sur, le seul morceau sur ce disque-là où il n'y a pas de paroles. Je viens de juste le remarquer. Ah. Voilà.
Mais comme je te dis, les chansons n'étaient pas chantées, en fait.
Non,
lui mettait des paroles, mais il n'y avait pas de chanteur, de chanteuse qui les chantait.
Mais il a fait des albums vocaux où parfois c'est lui qui chante et parfois il avait un chanteur et une chanteuse fétiche qui ont repris des choses comme Singer Blues et voilà. Donc on s'attache à ces mélodies puisqu'elles ont une version chantée.
Vocation à être chantée. Wow. Hey, merci Martin d'être venu, puis on lâche pas. En ce moment, Martin est venu me visiter pendant une semaine, fait qu'on joue un petit peu autour ensemble. On s'est retrouvés musicalement, c'est cool, ça fait plaisir. Cher public, merci de nous suivre. On lâche pas, on lâche rien. Si vous voulez adhérer à la radio, vous appelez à la radio, à un numéro de téléphone...
0475 93 82 52.
Qui se situe, place Bossuet?
Au 14.
Au 14, place Bossuet, vous pouvez venir porter de l'argent. Ça coûte 25 euros par année. Ça soutient la radio libre. On peut dire ce qu'on veut. On n'est pas tributaire de publicité ou etc. Donc, merci. Aussi, si vous voulez écouter nos émissions en podcast, c'est possible. En allant sur le site fréquence7.net, vous tombez sur le site, vous faites émission, celle que vous voulez, émission, puis là, il y a toutes les émissions. Là, si vous voulez écouter Direct Jazz, vous faites Direct Jazz, replay, puis vous avez toutes les dernières émissions de l'année, avec une photo de mes invités et de moi dans le studio. Vous pouvez l'écouter ou les télécharger, puis les garder précieusement pour les amener à la plage. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci Sylvain, encore une fois, ton professionnalisme exemplaire. Je vous laisse là-dessus, puis on va écouter la dernière chanson, une chanson de ma propre composition, qui s'appelle Laurie's Tune. Merci, mesdames, messieurs, gros bisous, bon début d'année, bon mois de septembre, puis on lâche pas. Salut, Martin.
C'est une chanson d'amour?
Ah ben, c'est un 5-4, ouais, c'est toutes les chansons, c'est des chansons d'amour, en fait.
Voilà.
C'est l'amour qui nous fait écrire. Salut, bye, bisous, merci.